Hello, hello, bonjour à toutes et à tous pour Marmaille, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission La Classe 974, vous êtes sur Radio Soleil, sur Ariel et sur Sunlight FM, et vous êtes avec moi Alexis, et aujourd'hui je serai votre professeur en ligne pour un cours de 3e. Bonjour, bonjour Marmaille, donc ce clé encore effectivement n'est pas en classe, aujourd'hui la rentrée pour tout le monde, hein. Marmaille est déjà en classe, au collège, m'a été faire mon petit tour au collège, mais rappelle ceux qui ne connaissent pas, que Radio Soleil, le studio, il trouve dans un collège, et là, les marmailles, ben, les tranquilles, les bien. Donc, je me rappelle à autres que vous allez sur Radio Soleil 87.4 sur Saint-Paul, le port la possession, radiosoleil.re. Vous allez aussi sur Ariel FM, bonjour Marmaille, Ariel FM, bonjour à toutes, hein. Dans le nord sur 96.2, dans l'ouest sur 97.0, dans le sud-ouest sur 98.9 et 97.1, dans le Grand Sud sur 99.6, dans l'Est sur 98.1, à chaque fois, il fait un maillage sur le dernier. Excusez-moi, Marmaille, Ariel FM. En application sur Ariel FM, iPhone et smartphone. Vous êtes aussi sur Sunlight FM, Radio Sunlight, sur Saint-Philippe, Basse-Vallée 95.5, Ravinango, Tremblay 105.2, Vincendeau, Saint-Joseph, Petite-Île à Grand-Bois sur 92.3. Donc, bonjour, Marmaille, que la réseau de case, hein, ses parents te fait choisir et les parents, le choix que vous avez fait est le bon choix. Ce que, effectivement, on a décidé d'envoyer les Marmailles à l'école. Donc, cela fait le choix pour ce de Marmaille, ce qu'elle a décidé de garder à la maison, cela fait le choix. Dans tous les cas, c'est le bon choix, parce que c'est le choix que cela réfléchit pour faire. Donc, aujourd'hui, nous, on est dans une classe de 3e. On va avoir un petit peu large. On revoit sur certaines notions. Donc, j'ai voulu faire le communisme du début du communisme et fin avec un point d'interrogation, bien sûr. Donc là, nous, ça a traversé quasiment tout un siècle. Donc, les biens, les prêts. Voilà. Donc, le communisme. Avant d'expliquer effectivement la leçon, il faut déjà expliquer ce que c'est le communisme. Le communisme, on est en programme de 3e, on peut compliquer un petit guin en plus, un petit miette de difficulté. Donc, le communisme, eh ben, ça appartient à un mouvement, un grand mouvement hein, social. Donc, où on veut une amélioration sociale, on veut améliorer la condition de vie du monde ouvrier. Donc, on est dans ce mouvement social. Tous les mouvements qui sont dits des mouvements sociaux, donc on va parler ça effectivement de mouvements socialistes. De mouvements socialistes, c'est des mouvements qui veulent effectivement améliorer les conditions sociales des plus pauvres, du monde ouvrier principalement, mais des plus pauvres. Donc dans ce mouvement socialiste, dans ces mouvements socialistes, on aura par exemple des syndicats qui ne sont pas des partis politiques. Et là, on va s'intéresser plus aux partis politiques en premier temps. On a le parti socialiste qui, à l'époque, s'est effectivement adhéré à l'internationale, la deuxième internationale ouvrière. Donc, et dans ce mouvement socialiste, on a effectivement le parti socialiste, que je viens de vous dire, effectivement, qui a adhéré à la deuxième internationale, et on a des mouvements qui, un autre parti, avec d'autres partis, hein, notamment le parti communiste, qui veut effectivement aller plus loin que les partis socialistes. On est dans des partis qui veulent la révolution. On est au 19e siècle rapidement, hein, ce sont les 19e siècle, et c'est la mise en place du système capitaliste tel qu'on le connaît, je veux dire tel qu'on va le connaître bientôt, et avec effectivement où on a une opposition qui commence à apparaître entre le capitalisme plus riche, les capitalistes plus riches, je peux plutôt faire la théorie de Marx, c'est un peu compliqué, et le reste. On va en revenir à la théorie de Marx, parce que je suis en train d'embrouiller. Karl Marx, on parle de marxisme, dit voilà. Dans la société du 19e siècle, le capitalisme est en train de se mettre en place. Le capital, je rappelle, c'est l'argent, les usines, etc. Mais m'y complique pas. Dit voilà, on a d'un côté deux catégories qui vont s'opposer, deux catégories sociales. Premièrement, on a la bourgeoisie d'affaires, les banquiers, les grands patrons et autres. Et on a de l'autre côté les ouvriers. Les bourgeois s'enrichissent de plus en plus, selon la théorie de Marx, et les ouvriers s'appauvrissent de plus en plus. Marx dit effectivement qu'il faut faire une révolution. Révolution légale quand c'est possible, une révolution légale, on prend le pouvoir avec les votes, on remporte les élections. Révolution violente quand c'est pas possible, on fait un coup d'État. Une fois qu'on arrive au pouvoir, on nationalise c'est de la vie déjà le mot nationalisation marmaille. Hein. On nationalise les entreprises, on nationalise les banques, on nationalise tout. Tout appartient à l'État. Le Parti communiste au pouvoir prend tout et contrôle tout. Les patrons sont mis dehors. Et ensuite, une fois que tout est nationalisé, on organise effectivement l'économie. On organise cette économie. Donc les gens, y a une certaine égalité qui commence à apparaître. Chacun va travailler. C'est vraiment basé sur le travail. La théorie de Marx, c'est sur le travail et le partage du travail, le partage de la conséquence du travail. Et on partage effectivement entre les gens qui ont tous le même salaire. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle le stade socialiste. Le stade socialiste, c'est on est au socialisme, ça veut dire que c'est la fin du capitalisme. Les entreprises n'appartiennent plus à des patrons, les entreprises appartiennent à l'État. Toutes les entreprises, toutes les banques appartiennent à l'État. Les patrons ne possèdent plus rien. Là, on est dans du socialisme. Les communistes veulent aller plus loin. Ils disent effectivement, au bout d'un moment, ceux qui sont organisés, ceux qui ont organisé l'État, le parti communiste qui se trouve au pouvoir, il doit, une fois qu'il a tout organisé, il doit démissionner. Il doit démissionner et on n'aurait plus de chef, on n'aurait plus personne qui commande. Tout le monde travaille pour le bien de tout le monde. Tout le monde travaille effectivement et tout le monde reçoit selon ses besoins. On est en égalité totale. Donc certains parlent d'utopie. Utopie, c'est une idée qui sera jamais réalisable, en disant que le communisme, c'est une utopie. Certains disent non, c'est réalisable, etc. Donc on est dans la théorie de Marx. Bien sûr, Marx ne parle pas d'utopie, puisqu'il veut mettre en place tout ça. Tout ça sera mis en place à partir de 1917 en Russie. La Russie, en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, elle connaît une révolution. La première révolution est une révolution en février 1917, une révolution bourgeoise, où on chasse le tsar Nicolas II et on va mettre en place effectivement un gouvernement provisoire, qui est un gouvernement effectivement qui met en place une démocratie, si vous voulez, une constitution. On a déjà vu tout ça marmaille, donc on n'y revient pas dessus. Et on est dans cette situation-là. On n'est pas une révolution marxiste, comme disait Marx. On a notre parti politique qui est présent en Russie, c'est le parti effectivement de Lénine, le parti bolchevique, qui est un parti communiste. Ce parti bolchevique a aucune chance d'arriver au pouvoir. Donc, par les élections, selon la théorie de Marx, il ne peut pas prendre le pouvoir par les élections. Donc, Lénine va prendre le pouvoir en octobre 1917 en faisant un coup d'État de manière violente. Donc, les bolcheviques prennent le pouvoir et, effectivement, il y a une guerre civile juste après la fin de la guerre, la fin de la Première Guerre mondiale. Je ne rentre pas trop dans les détails, marmaille. Et une guerre civile et les bolcheviques remportent la guerre civile. Ces bolcheviques, comme ils veulent aller vers le communisme, la théorie que j'expliquais tout à l'heure, la catégorie de Marx, on va les appeler partis communistes. Partis communistes, ce sont des partis effectivement qui veulent aller vers le communisme. Donc, les bolcheviques sont au pouvoir, ils prennent le nom de parti communiste et ils vont mettre en place le communisme en Russie. Mais vous avez compris, si vous avez suivi un petit peu la théorie qui reste des rappels de cours, pour aller vers le communisme, il faut passer par la phase socialiste, c'est-à-dire nationalisation de toutes les entreprises et toutes les banques. On a Lénine qui prend le pouvoir, effectivement, va créer un nouvel État, l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Union des Républiques Socialistes Soviétiques qui a pour objectif mettre en place ce nouveau régime. Lénine meurt en 1924, son successeur, ça va être Staline. Staline, qui est assez autoritaire, et certains disent que si Lénine n'était pas mort, etc., ne sera pas donné ci, pas donné ça, la réponse est oui, parce qu'en histoire, on raconte les faits, on n'est pas en train de faire des suppositions. Mais après, Lénine, il applique la théorie de Marx, et Staline va l'appliquer d'une certaine manière, à sa manière, de manière plus autoritaire avec sa vision. Mais est-ce que ça va donner autre chose? La réponse est oui, mais quoi? On ne sait pas. Donc il y en a qui ont dit que c'était mieux, ou ça aurait pu être pire, ça je ne sais pas. Mais l'histoire, on n'est pas là pour inventer. Donc Staline arrive au pouvoir en 1924, et tout de suite, il va passer de manière brutale au socialisme. Il va effectivement nationaliser toutes les entreprises qui n'étaient pas encore nationalisées, puisqu'il y a eu une première phase qui a été faite avec Lénine, je développe pas trop marmaille, hein. Staline va tout nationaliser, les banques qui restaient à nationaliser, les petites entreprises qui restaient à nationaliser, et il va mettre en place la collectivisation forcée. C'est-à-dire que les paysans sont obligés de se regrouper en terre collective, en exploitation collective. Le celui qui possédait son terrain, l'autre qui possédait un bout de terrain, etc., elle est finie. Le terrain, désormais, est mis ensemble et tous les terrains appartiennent au village, si je prends l'exemple du village. Et ces terrains, effectivement, ces terres agricoles, n'appartiennent plus aux individus, ils ont tout perdu, bien sûr, et tout, effectivement, appartient au village, est dirigé par le village, effectivement, par le chef du village, le parti communiste du village. Ce qu'on appelle des kolkhozes. Kolkhozes, exploitation collective. Donc, on est dans cette situation-là où les entreprises sont nationalisées, les banques sont nationalisées, et bien sûr, les terres sont mises en collectivité. Donc, et Staline va mettre en place un régime totalitaire. Régime totalitaire, c'est un régime qui a pour objectif le contrôle total de la population. Contrôle total de la population en utilisant l'embrigadement, donc tout le monde doit être de bons communistes, etc., tout ça, en utilisant aussi la propagande, donc faire en sorte qu'à l'école, partout, on entend parler de Staline, du communisme, etc., certains parlent du bourrage de crâne, et bien sûr, tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui refusent d'être embrigadés, tous ceux qui refusent cette propagande, on va utiliser la terreur. La terreur, c'est-à-dire on va éliminer, effectivement, soit ils rentrent dans les rangs, soit on les élimine en les envoyant dans des camps effectivement de prisonniers, des goulags, des camps du goulag, des camps de travaux forcés, ce qui permettra de faire le canal de l'Intel, si on veut faire des usines, des entreprises, des machins, ou on va les déplacer complètement à l'autre bout de la Sibérie, l'autre bout de l'URSS, donc en Sibérie, ou tout simplement on va les éliminer. On va les éliminer en les tuant, les exécutant ou autre. Donc, il met en place un régime totalitaire. Régime totalitaire qui est un régime totalitaire d'extrême gauche. Je ne rentre pas dans le détail, à ne pas confondre. Le régime totalitaire, effectivement, nazi, qui est d'extrême droite. Je referme la parenthèse. Donc, Staline, effectivement, met en place ce régime communiste en URSS. D'autres. C'est l'objectif, effectivement, Staline ne s'intéresse pas trop au reste de l'Europe, mais il y a déjà cette idée, ce qui était déjà, mais elle est compliquée un petit peu en parlant de Trotsky. Les bons, mais calme. Donc il y a d'autres partis communistes qui vont effectivement se mettre en place en Europe, qui veulent effectivement appliquer les idées de Karl Marx, mais de la méthode effectivement mise en place par Lénine et Staline. Bien sûr, à l'époque, on n'est pas très au courant de ce qui se passe en URSS, en Europe. Certains voient effectivement comme quelque chose d'extraordinaire, en disant que tout le monde est heureux. Il y a de la propagande, bien sûr, en direction des pays européens. Les partis socialistes en Europe vont se diviser en deux. Donc, ceux qui vont décider de rester dans le Parti socialiste, la SFIO, la Deuxième Internationale, et ceux qui vont accepter, par exemple, de rester, je commence à bafouiller un peu là, ceux qui vont décider de rester dans le Parti socialiste, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, la Deuxième Internationale, l'URSS va créer une Troisième Internationale qu'on appelle aussi Internationale communiste, en demandant effectivement aux partis d'Europe de rentrer dans leur internationale. Et à l'intérieur des partis socialistes, certains effectivement vont adhérer, vont quitter le Parti socialiste pour adhérer effectivement la Troisième Internationale. En France, la SFIO, qui appartient à la Deuxième Internationale, va se diviser en deux, et certains vont rester, et d'autres vont créer le Parti communiste français, le PCF, et rentrer dans la Troisième Internationale, avec pour objectif, effectivement, une révolution immédiate, pour pouvoir mettre en place le système à l'exemple de l'URSS. Dans ce système soviétique, puisque l'État contrôle toute l'économie, il n'y a pas de chômage, tout le monde va à l'école, avec la propagande, tout ça derrière, bien sûr, tout le monde a accès à la crèche, la cantine, etc. Vu de l'extérieur, c'est un monde magnifique, bien sûr. Mais il y a quand même ce régime totalitaire. En 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale. Bon, les États ont du mal à reconnaître l'URSS, mais de fait, Staline, après l'opération Barbarousse où Hitler attaque l'URSS, Staline devient allié des autres États capitalistes. L'objectif n'est plus de dire effectivement il est communiste et on l'aime pas et tout. Donc communiste, on part du principe, vous avez compris, hein, communiste, c'est tout État qui veut aller vers le communisme. Donc, on simplifie en disant les partis, les États et les partis qui veulent aller vers le communisme, on les appelle partis communistes. Donc, cette opposition, elle est toujours présente, mais elle est en sommeil. Et Staline devient allié de l'URSS, allié des États-Unis. L'URSS devient allié des États-Unis. Ils ne s'aiment pas, mais ils sont obligés d'être alliés contre Hitler. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale, les Alliés l'ont remporté grâce aux États-Unis et grâce à l'URSS. On ne peut pas retirer la présence de l'URSS dans cette victoire. Ça serait effectivement, on a tendance à parler de la présence américaine qui est importante, hein, mais on ne peut pas retirer la présence de l'URSS. Donc, on va dire que cette opposition est en sommeil. Mais après la Seconde Guerre mondiale, comme les Alliés remportent la guerre, cette opposition, elle revient, elle va revenir de manière beaucoup plus violente. Cette fois-ci, chaque camp veut augmenter, veut étendre leur influence dans le monde. On va rentrer dans la situation effectivement de la guerre froide, et on va rentrer dans un monde divisé en deux blocs. Un nouveau grand État communiste apparaît, c'est la Chine de Mao Zedong, ou Mao Tse-tung. La Chine de Mao, la Chine qui devient communiste, mais qui refuse de porter allégeance, qui refuse d'obéir à l'URSS de Staline. Elle va vivre sa propre vie. Et en Europe de l'Est, les Soviétiques qui ont libéré du nazisme l'Europe de l'Est, ils vont tout simplement rester, je simplifie bien sûr, et ils vont noyauter les différents partis politiques et ils vont étendre leur influence en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, ils vont rester capitalistes. On est dans après la Seconde Guerre mondiale et toute cette période de la guerre froide qui va de 1947, on simplifie, jusqu'à 1991. Les communistes vont étendre leur influence en Asie, en Europe de l'Est, on a vu, hein, vont étendre leur influence en Asie. On aura le Vietnam, avec la guerre du Vietnam, on a vu effectivement la guerre de Corée, etc. Et ils vont étendre aussi l'influence en Amérique du Sud avec Cuba, dans les autres États d'Amérique du Sud, avec effectivement une opposition sur le territoire des Américains, parce que les Américains partent du principe que l'Amérique, c'est leur zone gardée, leur zone protégée, et ça passe mal. Et bien sûr, en Afrique. Bon, je reviens pas sur la crise de Cuba, hein, Staline est mort de mémoire en 1954. On a par la suite, effectivement, pendant la crise de Cuba, c'est Khrouchtchev qui est chef du Parti communiste de l'URSS. Il va installer des missiles à Cuba et les États-Unis refusent. Ils ne veulent pas, bien sûr, des missiles nucléaires. Hein, et on était à la limite d'une guerre nucléaire entre ces deux grands. Je ne reviens pas dessus. Donc, le communisme s'est étendu quasiment en Europe de l'Est. Une partie en Afrique difficilement, et en Amérique du Sud présente également, mais diffamées, sont bien étendues. On est en pleine guerre froide. Ce qui va changer la donne, c'est ces trois personnages vont jouer un rôle très important, on va dire, dans la chute des mouvements communistes. Donc, je vais prendre le 16 octobre, entre trois dates. 16 octobre 1978, première date, ça sera 1978. On a un ancien prêtre polonais qui est évêque de Cracovie, évêque effectivement en Pologne, Karol Joseph Wojcicki, je ne suis pas très polonais, bon, qui devient pape. Il devient pape et il devient pape sous le nom de Jean-Paul II. Il devient pape sous le nom de Jean-Paul II. Il a connu effectivement le communisme en Pologne. Il a grandi dans ce régime communiste totalitaire qui a effectivement prêté allégeance à l'URSS, et en tant que pape, de manière non visible forcément, de manière souterraine, il va travailler effectivement pour lutter contre le communisme, et il va participer à la chute du communisme. Et on a un autre personnage, on va rester en Pologne. En 1980, on a un homme qui s'appelle Lech Walesa qui va créer un syndicat qui s'appelle Solidarność, ou Solidarnosc si vous voulez, ou Solidarité. Et ce syndicat qui est autorisé à un moment donné, qui va être interdit par la suite, hein, c'est un syndicat d'ouvriers qui vont lutter contre le gouvernement polonais communiste. et ils vont jouer un rôle très important. Et ce syndicat commence effectivement à faire parler de lui, notamment dans d'autres pays communistes, notamment dans les autres pays capitalistes, qu'on regarde de loin, dit qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc ce syndicat va jouer un rôle très important dans la chute du communisme en Pologne. Et troisième personnage, ça sera être troisième date, ça, je ne sais pas si j'ai dit pour celui d'Arnold, c'est 1981 que le syndicat est fondé. Donc, et 1985, ça sera effectivement l'arrivée au pouvoir en URSS de Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev, qui est communiste, mais qui veut un communiste plus moderne. Il veut plus de transparence. Il veut un communiste avec moins de régime totalitaire. Il veut effectivement de la transparence et un petit peu, il va commencer à libérer les prisonniers politiques. Il va commencer effectivement au niveau économique à donner une certaine liberté. Mais il est communiste, il veut pas aller adopter le capitalisme. Donc on a ces trois personnages. On a Jean-Paul II, on a Lech Walesa, on a Gorbatchev. Gorbatchev, contre son gré, ils vont effectivement précipiter quelque part la chute du communisme. Gorbatchev va déclarer il n'intervient plus dans les affaires des autres pays communistes. Il se rend compte que l'URSS est en crise économique et n'est pas aussi puissante qu'on le dit. Et il faut faire des économies. Pour faire des économies, pour changer effectivement l'économie, il faut tout simplement arrêter la guerre froide. Il faut arrêter la guerre froide et pour arrêter les dépenses militaires. Et pour cela, il faut faire effectivement la paix avec l'ennemi, avec les États-Unis. Et il faut aussi cesser d'intervenir dans les autres pays communistes. Et les autres pays communistes, au fur et à mesure, se rendent compte effectivement que Gorbatchev n'interviendra plus. Et on a, par exemple, en Pologne, Solidarność, qui se transformera en parti politique. Et en 1988, ça sera la fin du communisme en Pologne, qui s'écroule. Et à partir de cette date, au fur et à mesure, comme un château de cartes, on a tous les États communistes en Europe de l'Est qui vont s'écrouler les uns après les autres, de manière violente parfois. Hein. 1989, ça sera la fin du mur de Berlin-Ouest, et ensuite la fin de l'Allemagne de l'Est, où on aura la réunification plus tard. On a en 1989 la fin du monde communiste, du parti communiste effectivement en Roumanie, avec le groupe Ceausescu qui est arrêté et qui ensuite est exécuté. Et en 1991, le système s'écroule complètement, c'est la fin de l'URSS. C'est la fin de l'URSS et le communisme dans le monde s'écroule les uns après les partis communistes s'écroulent les uns après les autres. Donc certains, c'est la fin du communisme en URSS avec la naissance de nouveaux États, qui réapparaissent ou qui apparaissent. On a par exemple les États baltes, hein, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, on a la Biélorussie, on a l'Ukraine, on a tous ces États effectivement qui renaissent de nouveau. Et la Russie va reprendre, on va dire, tous les éléments politique ou économique que possédait l'URSS. Par exemple, siéger au Conseil de sécurité. C'est la République de Russie qui devient effectivement, qui prend la suite de l'URSS. En train de bafouiller, en train de mélanger à moi. Voilà. Donc, on peut dire effectivement que le communisme dans le monde s'est écroulé. Il y a des pays qui ont résisté plus longtemps. On prend l'exemple de Cuba. Cuba qui est resté communiste pendant longtemps et qui, effectivement, il y a quelques années, s'est ouvert au commerce extérieur. On a d'autres pays. On va prendre l'exemple de la Chine. La Chine, on a toujours le parti communiste qui est présent, qui dirige, mais qui est passé, effectivement, en économie au système capitaliste. Donc, ils ont gardé un régime autoritaire. Et ils sont passés effectivement à un système, on va dire, semi-capitaliste, si vous voulez, avec un contrôle de l'État sur l'économie. On est un système intermédiaire qui est réinventé par la Chine. Et dans les autres pays, même les partis communistes français ou autres dans les pays d'Europe, vont perdre de la vitesse après les années 1970, 1980, et vont quasiment devenir extrêmement peu important dans les années fin des années 2000 et arrivé effectivement au 21e siècle, ces partis communistes jouent un rôle de moins en moins important. On peut prendre l'exemple de La Réunion, le PCR a joué un rôle extrêmement important dans les années 1950, 1960, 1970, 1980, ça commençait effectivement à être en perte de vitesse par rapport à tout ce que je viens de dire, fin des années 1980, fin des années 1990, ça a encore résisté, hein. Le PCR a résisté encore plus longtemps à La Réunion par rapport aux autres partis communistes dans le monde, et après les années 1990, donc c'est la chute, après l'image du PCR à La Réunion, effectivement, c'est Vergès qui effectivement a été le personnage clé du parti communiste à La Réunion. Donc, au début des années 2000, on peut dire effectivement que l'idée du communisme tel que voulu par Lénine ou appliqué par Staline, c'est un peu, on va dire, envolé. Après, ça veut pas dire que le marxisme c'est fini ou pas. Hein, je rentre pas là-dedans. Hein, mais c'était effectivement une application possible des idées de Marx qui a marqué tout le XXe siècle avec des dégâts aussi, hein, puisqu'il y a eu des morts, etc. Ouais, j'ai pas pu rentrer là-dedans. Je voulais aller vite, mais après, avec une idée effectivement d'égalité, du partage du travail. C'est au début, hein, c'était ça l'idée. C'était est-ce une utopie, une application, je rentre pas dans les détails, est-ce que les faisables, les pas faisables, mamie rentre pas là-dedans, donc chacun fait ses idées là-dessus. Donc l'idée c'était au départ une nationalisation de toute l'économie, une nationalisation des entreprises, des terres ou autres, et ensuite que chacun travaille pour le bien, que chacun travaille et on partage ensuite le travail. Ce qui certains disent, pas moi, mais peut-être pas à mon avis, que ce qui manquait peut-être effectivement c'est le côté humanité ou le bien de chacun, ou effectivement je sais pas, après on va peut-être, je rentre pas dans un débat, hein, puisque le communisme c'est effectivement aussi anti-religieux, donc ce qui manquait, puisque à la fin de la chute du communisme en URSS et dans tous les états communistes de nouveau, les religions sont d'un seul coup sont réapparues, ça veut dire qu'elles n'ont pas disparu, elles étaient faites en cachette, hein, en misouk, hein, donc tranquillement, puisque même on parlait effectivement par exemple aussi en Pologne, qui c'était où il y avait un peu plus de possibilités, mais sous contrôle, mais avec effectivement en faisant taper dessus aussi, puisque Jean-Paul II a pu devenir pape. Voilà. Donc j'ai aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, si on prend l'exemple de la Chine, est-ce qu'on réinvente, est-ce qu'ils sont en train de réinventer un système qui est un intermédiaire entre du capitalisme et du communisme? On ne sait pas. La Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une réinvention de quelque chose? On ne sait pas non plus. Donc, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mort, c'est pas mort. On a raconté l'histoire. Donc, voilà. J'espère avoir été de nouveau assez clair, parce que quand je me suis lancé là-dessus, je dis ouh là 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 là. Allez, un petit engagement, on se le fait toute cette période sur le très long terme. Voilà. Donc cette émission touche déjà à sa fin. Hein. Bon, Marmaille, j'espère que ça allait bien, j'espère que ça a bien passé. Bon, j'espère qu'on a été assez clair. Hein. Si on n'a pas été assez clair, mais bon, il faut aller voir le podcast du Radio Soleil où Laurent, et merci Laurent qui met tout ça sur le podcast. Il faut aller effectivement écouter ça sur les podcasts du collège Solès. Et sinon, effectivement, les rediffusions sur les radios respectives, RIL, Sunlight et Radio Soleil. Donc, un grand merci à Simi pour toutes ces programmations et toutes ces reprogrammations sur Radio Soleil. Merci à Laurent pour tous ces podcasts. Merci à Anne Leclerc pour les podcasts sur le site du Collège Soleil. Grand merci à RIL de nous diffuser. Hein. Ça fait plaisir d'avoir ce partenariat avec RIL qui nous permet effectivement d'être présents sur toute l'île. Merci à Yann pour tout ça. Merci aussi à Félix de Sunlight. Ça nous permet effectivement de nous adresser au Marmaille, effectivement, de l'autre côté. Par rapport à nous, il est dans l'ouest Marmaille. C'est par rapport à Zot, à dire ouais, mais par rapport à nous, monsieur, il est l'autre côté là-bas. Mal est d'accord avec Zot. C'est toujours une question de point de vue. C'est ça, il faut faire attention, accepter le point de vue de l'autre. Puisque selon le point de vue, on n'est pas au même endroit. On n'a pas la même. On accepte effectivement. C'est ça la tolérance. Un grand merci aussi aux principaux, hein, des principaux des différents collèges qui ont fait, là, je m'adresse à tous les principaux. principaux adjoints des administrations, les agents de terrain, les dames de service, les gens de service, qui ont fait un travail énorme pendant plusieurs semaines pour pouvoir accueillir les gamins dans de bonnes conditions, respectant le protocole, qui est pas évident effectivement à mettre en place. Mais Banane a travaillé, l'a nettoyé, les cuisines, merci aussi aux cuisiniers, tout ce personnel que les derrière, qu'on ne voit pas, mais pour accueillir les marmailles dans de bonnes conditions, hein, il y a un gros travail de réflexion et un gros travail d'application. Merci aussi les collègues d'histoire, de toutes les matières qu'il est là pour les marmailles, et merci aussi les marmailles qui sont venues. Merci aux marmailles qui restent à la case, chacun selon le choix des parents. C'est bien, ces autres enfants, le bon choix, c'est le choix que je l'ai fait. Donc, merci bien sûr à nos principaux, mon principal adjoint Laurent Robiffet, notre principal Daniel Gauvin. Merci, un grand merci à vous. Si vous voulez faire des petites remarques, tout ça, donc il faut ça dire, vous savez, un petit tour, dire si vous faites un petit tour là-dessus, s'il vous plaît. Donc, le mail soleil. Classe 974 soleil classe 974 @gmail.com. Bon, mais souhaite à toi une bonne journée sur Radio Soleil, mais souhaite à toi une bonne journée sur RIL, mais souhaite à toi une bonne journée sur Sunlight. Donc, et je vous dis bien sûr à bientôt et restez sur nos ondes respectives.